VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est midi à N'Djamena au Tchad. Bonjour et bienvenue. Le pape François va prononcer cet après-midi un discours très attendu sur le climat à Nairobi au Kenya. Il a appelé les Kenyans à défendre la famille dans la matinée lors d'une messe géante célébrée dans la capitale après avoir mis en garde les jeunes contre l'extrémisme dans un pays durement touché par les attaques d'islamistes radicaux. Le souverain pontife avait par ailleurs mis en garde mercredi à Nairobi contre le désespoir. L'espoir et la pauvreté qui, selon lui, nourrissent le terrorisme et la violence. Le président de la conférence des évêques de l'Église catholique au Burundi, Mgr Gervais Banchimi Yubusa, explique la substance du message papal.
Le message qu'il a donné, c'est un message évangélique. Et l'évangile est toujours en train de parler de justice, de vérité, d'appel à la paix. Alors, dans la mesure où nous savons ouvrir nos cœurs comme chrétiens, en sachant que celui qui vient, c'est un envoyé de Dieu, c'est un apôtre, nous pourrons certainement y trouver des possibilités d'aller de l'avant en améliorant ce qui doit l'être et en corrigeant même certaines choses qu'il faut corriger.
Monseigneur Gervais Banchimi Yubusa, joint à Ngozi, dans le nord du Burundi, a noté que le pape François est à la première étape de sa tournée en Afrique, qui va le mener ensuite en Ouganda et en République centrafricaine. En République démocratique du Congo, un député national récemment passé à l'opposition dénonce la forte militarisation de Lubumbashi dans la nouvelle province du Haut-Katanga. Eddy Sango pour les précisions.
Christian Mwando, membre du Parlement congolais, a accusé hier les autorités de chercher à faire taire toute voix dissidente à un an d'une présidentielle incertaine. Il a dénoncé au cours d'une conférence de presse les tracasseries et intimidations dont sont victimes les opposants à Lubumbashi et particulièrement ceux du G7, groupe des leaders passés à l'opposition après avoir mis en garde les présidents congolais Joseph Kabila contre la tentation de s'accrocher au pouvoir. Le député a relevé le fait que la présence militaires aient été nettement renforcés dans la ville depuis fin septembre, quand le riche gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a annoncé sa démission et son départ du parti de M. Kabila, jugeant que tout semblait mis en œuvre pour ne pas respecter la constitution. Selon les députés, vous êtes systématiquement traqué si vous fréquentez M. Katumbi ou Gabriel Kyungu Akumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et un des chefs du G7. Le G7 voit dans les dialogue national que M. Kabila a annoncé vouloir convoquer sous peu une manœuvre pour retarder la date de la présidentielle prévue avant la fin novembre 2015.
VOA Afrique en direct de Washington.
Et nouveau casse-tête pour le président Muhammadu Buhari, déjà menacé par les insurgés islamistes de Boko Haram. Le Nigeria est confronté à une nouvelle poussée séparatiste dans le sud, notamment dans la région du Delta du Niger, où des activistes réclament le contrôle des revenus pétroliers. Selon l'accord actuel, les revenus du pétrole sont divisés parmi les 36 États du pays. Et vendredi dernier, le lobby du mouvement autodétermination du Delta du Niger a contesté cette répartition, la qualifiant d'injuste. Le sud-est du Nigeria est déjà secoué depuis quelques semaines par une nouvelle série de manifestations revendiquant la création d'un nouvel État au Biafra, 45 ans après la fin d'une sanglante guerre civile déclenchée par une déclaration d'indépendance. On va au Burkina Faso, c'est la dernière ligne droite vers les élections présidentielles et législatives prévues dimanche. À quelques jours de cette échéance cruciale, les organisations de la société civile se mobilisent pour que ce double scrutin prenne non seulement en compte les aspirations des populations, mais surtout se déroule dans un climat de transparence et d'acceptation par tous des résultats. Le MDBHP, une organisation de la société civile, s'est juré d'être les yeux et les oreilles du peuple burkinabé. On écoute son coordonnateur, l'Ansena Simpore.
Nous avons opté de faire une observation qualitative. Toutes les 45 provinces sont couvertes et nous avons des gens qui seront fixés dans les bureaux de vote. Les observateurs sont tenus de suivre de bout en bout jusqu'à la proclamation des résultats et tout. Au niveau de chaque province, après les élections, chaque province va faire ses constats. Et le jour là, nous avons demandé, le président l'a dit, on fera appel à vous pour donner notre point à chaud. Parce que dès donc la clôture des bureaux de vote, nous devrons recevoir à notre niveau tous les points au niveau donc des 45 provinces du pays.
Lansana Saint-Poré, coordonnateur du MDBHP, propos recueillis à Ouagadougou par Issa Napon. Les assises de la 65e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se poursuivent à N'Djamena au Tchad, une rencontre largement consacrée aux stratégies à développer pour faire face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola et d'autres maladies transmissibles. Correspondance André Côte-Majinga.
Apparue en Afrique de l'Ouest à la fin de l'année 2013, l'épidémie à virus Ebola a mis à nu les systèmes de santé en Afrique, car ils ne sont pas conçus pour répondre aux urgences. Il sortira de cette session de N'Djamena des paquets de stratégies pouvant renforcer la mise en place d'un fonds épidémiologique et la création d'un centre de dépistage issu de la 64e session tenue en 2014 à Cotonou, au Bénin. Dr Magda Robalo est la directrice de la division des maladies transmissibles au bureau régional de l'OMS et porte-parole de la 65e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique.
Cette épidémie a démontré que non seulement au niveau de nos pays, nos systèmes de santé ne sont pas équipés, nous n'avons pas les ressources humaines, les capacités de laboratoire et les financements, les hôpitaux, les centres d'isolement dont nous avons besoin pour faire face à des épidémies de ce genre. Mais au niveau de l'OMS, ce que nous sommes en train de faire, c'est de réformer pour mettre en place un système qui va nous permettre à tout moment répondre de façon efficace, aussi bien pour la mise en route des ressources humaines, des experts, aussi bien pour la riposte internationale et la coordination des partenaires internationaux, aussi bien pour la mise à disposition des ressources financières dont les pays auraient besoin en cas d'épidémie.
Le virus Ebola ne peut pas occulter la charge de morbidité et de mortalité maternelle en Afrique. Dr Magda Robalo propose trois sortes d'engagements aux États membres de l'OMS pour l'Afrique.
Le leadership des États, l'engagement politique, ça c'est important. Deuxièmement, si nous ne faisons pas un investissement conséquent, important, durable dans le temps, il ne sera pas possible de réduire la charge de morbidité, de mortalité par les maladies qui sont en ce moment des préoccupations majeures. Troisièmement, il faut que l'Afrique soit beaucoup plus solidaire. Il faut que l'énergie, l'éducation, l'agriculture, l'eau, l'assainissement, que les autres secteurs travaillent en collaboration avec le ministère de la Santé. La santé n'est pas un problème du ministère de la Santé. Et tant qu'il n'y aura pas d'action multisectorielle et de collaboration transfrontalière, et l'accent sur les communautés, on ne pourra pas s'en sortir.
Elle se réjouit par ailleurs de la réduction du nombre de personnes atteintes du VIH-Sida à 10 millions, placées sous traitement antirétroviral, et d'un nombre réduit de nouveaux cas d'infection. André Kodomadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Un juge sud-africain a décidé aujourd'hui de lever le moratoire sur la vente de cornes de rhinocéros mis en place en 2009 pour lutter contre le braconnage qui décime l'espèce. Et depuis la mise en place de ce moratoire en 2009, le braconnage a explosé dans le pays qui abrite 80% des rhinos survivants dans le monde.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La Tunisie a fermé pour 15 jours sa frontière avec la Libye, cela afin de tenter de stopper l'arrivée de djihadistes depuis ce pays en proie au chaos et d'éviter un nouvel attentat après l'attaque suicide ayant frappé la garde présidentielle en plein Tunis mardi dernier. Le pape copte orthodoxe Tawadros II a quitté aujourd'hui l'Égypte pour se rendre à Jérusalem où il doit assister aux funérailles de l'archevêque de Jérusalem et du Proche-Orient. Le père Abraham a annoncé le porte-parole de l'Église. Cette visite était la première depuis des décennies. Bien que l'Égypte ait signé la paix avec Israël en 1979, l'ancien pape copte Chenouda III, décédé en 2012, avait, après avoir dirigé l'Église durant 40 ans, avait interdit à ses fidèles de se rendre à Jérusalem tant que le conflit israélo-palestinien n'était pas réglé. Et puis, pour finir, le président français François Hollande se rend aujourd'hui à Moscou pour tenter de rapprocher les positions russes et américaines sur la Syrie et la lutte contre le groupe État islamique responsable des attentats de Paris qu'il veut atteindre au cœur grâce à une coalition internationale élargie poursuivant une intense semaine diplomatique. Il se sera entretenu donc dans la matinée à Paris avec l'Italien Matteo Renzi, après l'Allemande Angela Merkel et des discussions avec l'Américain Barack Obama et le Britannique David Cameron. Notons que le Premier ministre britannique doit présenter ce jeudi à son Parlement un plan pour participer au combat en Syrie contre le groupe État islamique. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francis. Pour ma part, je vous dis à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.